Voilà. Alors, quel est le sens du baptême quand on est Dieu ? Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Quel est le sens du baptême ? Eh bien, le baptême, c'est l'incarnation qui se poursuit. Qu'est-ce que fait le Christ ? Il est celui qui descend. Il s'est abaissé dans le sein de la Vierge Marie. Il est descendu à Noël dans la crèche. Il va descendre au Jourdain à moins 400 en dessous du niveau de la mer. Il est baptisé à l'endroit le plus bas du globe, sur la terre, en dessous du niveau de la mer. D'accord ? Dans le Jourdain qui s'appelle, qui veut dire étymologiquement, celui qui descend. Et dans le Jourdain, il est baptisé en bas du Jourdain, donc c'est vraiment au plus bas. Et il descendra encore dans la mort, à la croix, pour rejoindre l'humanité dans l'obscurité. Qu'est-ce que va produire cette descente ? Cette descente, elle va produire la vie symbolisée par la colombe. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez les jeunes, l'histoire d'un oiseau, d'une colombe dans l'Ancien Testament ? Vous connaissez ou pas ? L'arche de Noé. Voilà, l'arche de Noé. Je n'ai pas tellement compris pourquoi il retenait que ça dans l'Ancien Testament, l'arche de Noé. Il y a plein d'épisodes. L'arche de Noé, bien sûr. Et donc, Noé, c'est quoi ? C'est un monsieur qui s'appelle Noé, voilà. Il construit une arche, il va monter dans l'arche avec sa famille, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe sur la terre ? Il va ramener des coupes d'animaux, tout ça, alors les gens n'entendent pas au fond, donc je répète à voix haute. Et donc, la terre va être inondée, 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 et puis à un moment donné, il envoie une colombe qui va rapporter un brin de... Vous savez quel arbre ? De figuier. Voilà, les figues. Un brin de figuier, sachant que du coup, avec ce signe-là, eh bien, je comprends que la vie est arrivée sur la terre. C'est-à-dire que la terre n'est pas sous les eaux, mais ça y est, c'est la vie qui naît. Donc ça veut dire que l'arche de Noé, c'est quelques personnes qui sont sauvées, et puis l'humanité qui est engloutie. Bon. Il y en a un autre. Alors lui, il n'envoie pas un oiseau, mais il a un prénom qui signifie colombe. Ça, c'est compliqué, ça. Savez-vous quel est celui dans l'Ancien Testament qui a un prénom qui en hébreu signifie colombe? Ah ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Si quelqu'un a la réponse, je lui paye le repas du dimanche gourmand. Alors, non, mais pas les clercs, on cotise, ils font 7 ans d'études. Et si au bout de 7 ans, ils ne savent pas dans l'Ancien Testament quel est le nom du monsieur qui signifie colombe, vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que c'est agréable pour moi de sentir que je suis utile, voyez, pour cette paroisse. Parce que, bon, tu sais pas. Bon, alors, le nom, c'est Jonas. Monsieur Jonas, en hébreu, ça signifie colombe. Alors, Jonas, c'est l'inverse. Jonas, c'est le seul qui, lui, va couler, à l'inverse de Noé, et les matelots, ils vont tous aller bien, parce que quand il y avait Jonas sur le bateau, ça se passait pas bien. Et donc, Jonas va descendre. Il va descendre à... Ou à quel endroit ? Il va descendre à Jaffa. Il va descendre dans la cale du navire. Ensuite, il va descendre à la racine des montagnes. Il descend, il n'arrête pas de descendre. Bon. Donc, ça veut dire que lui, il est un peu suicidaire. Ça arrive. Dans l'Ancien Testament, vous avez tous les styles. Hein. Vous avez un prophète qui ne veut pas être prophète. Bon, ça peut arriver. Hein. C'est comme des curés qui ne veulent pas être curés ou des vicaires pas vicaires. Et donc, lui, il dit, j'en veux plus. La vie, j'aime pas. Allez, j'arrête. Et passez-moi par-dessus bord, prenez-moi, jetez-moi à la mer, afin que le calme se passe autour de vous. Et en effet, le calme se passe. Mais Jésus dit, il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas, donc c'est intéressant, parce que c'est le seul prophète qu'il convoque, Jésus. Il faudrait s'intéresser un peu plus à Jonas, à mon avis. Et donc je comprends que l'offrande de sa vie va créer la paix autour de lui, y compris à Ninive, parce qu'il ira ensuite à Ninive. Donc prenez-moi, jetez-moi à la mer, eh bien, ça veut dire, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'offrande, jusqu'à mourir, qui crée la vie. Il y a comme une annonce avec ce Jonas que la mort peut donner la vie. Et c'est ce que va faire Jésus. Jésus, il descend. Et vous avez vu cette icône, là, où il est complètement sous l'eau. C'est pour ça que nous aimons bien faire des baptêmes par immersion, notamment à Pâques, pour les adultes. Parce que les adultes, ils... voilà. Parce qu'on signifie par là qu'en descendant, en mourant à nous-mêmes, en mourant à notre péché, c'est la vie qui renaît. Et le Christ, bien sûr, vit cela de manière figurée à son baptême, mais il le vivra réellement. Il va descendre dans la mort. Il va descendre dans le tombeau. Et ça, ça crée la vie. Alors, comment la mort crée la vie, là? Pourriez-vous m'expliquer? Pas de problème. Alors, en fait, quand on aime, eh bien, il faut mourir. Mais ça crée la vie, donc soyez pas triste. Quand on aime, il faut mourir. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez lui faire un petit cadeau, par exemple. Bah, du coup... vous allez mourir à autre chose, que vous aviez un autre projet. Enfin, ceux qui n'ont pas trop d'argent, ceux qui donnent leur superflu, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui donnent un peu de leur nécessaire, s'ils font ce cadeau-là, ils ne vont pas s'acheter quelque chose d'autre. Donc il y a une petite mort. Quand vous priez, vous mourrez à toutes vos activités. Parce que vous prenez 15 minutes, 20 minutes de prière, 10 minutes, vous ne faites plus rien. Vous arrêtez votre bouquin super sympa. Vous arrêtez de scroller sur votre iPhone ou votre Android. Vous arrêtez votre cli, vous arrêtez de tricoter, s'il y en a qui tricotent. Vous êtes à la prière. Et prier, c'est difficile. Il y a des gens, ils disent, en fait, moi, je ne veux pas mourir. Donc, je ne veux pas arrêter. Donc, ils n'arrivent jamais à arrêter. Des gens, ils disent, non, moi, je ne prends pas de repos. Je continue à travailler tout le temps, tout le temps. Je ne veux pas arrêter. Quand vous décidez dans une conversation... de dire « je n'aurai pas le dernier mot, je préfère garder le lien que d'avoir raison », eh bien, à ce moment-là, vous mourrez un peu à, je sais pas quoi, le sentiment, le désir d'avoir raison. Nous, entre prêtres, on est à quatre, là-haut, là, trois prêtres, un diacre, de temps en temps, on meurt, c'est pas toujours le même qui meurt, pour que la vie circule, parce que si on veut toujours avoir raison, la vie ne circule pas. Donc, un religieux, par exemple, va faire vœu de pauvreté, il meurt assez bien, vœu de chasteté, il n'y aura pas de descendance, vœu d'obéissance, je meurs à ma volonté propre. D'accord? Aimer, c'est mourir. Donc, c'est vraiment important de se dire, en fait, que signifie pour moi mourir chaque jour? Je dis ça parce que des personnes en fin de vie ne savent pas mourir. Pourquoi elles ne savent pas mourir en fin de vie? Parce qu'elles n'ont pas appris à mourir dans leur quotidien. Plus vous apprenez à mourir dans votre quotidien, plus au soir de votre vie, au soir de notre vie, nous arriverons à remettre notre vie entre les mains du Père. D'accord? Donc par ces petites morts chaque jour, on s'entraîne pour le grand passage. Et cette mort est possible... et c'est le deuxième sens de ce baptême. Bien sûr, le baptême, c'est d'abord la mort du Christ et l'invitation à mourir pour vivre. Mais le deuxième sens, c'est aussi un don. C'est-à-dire que cette offrande du Christ, et là, c'est le Christ qu'on regarde, comme dit la deuxième lecture, il est celui qui, en mourant, nous donne la vie, c'est-à-dire nous donne son Esprit Saint. Donc vous repérez bien, les enfants, le Christ n'est pas simplement celui qui nous aime, mais celui qui habite en nous par le baptême. Le Christ n'est pas seulement celui qui nous aime, mais celui qui habite en nous. Et du coup, c'est une vie qui est transformée, comme dit saint Paul. Qu'est-ce que dit saint Paul ? La grâce de Dieu s'est manifestée pour chacun d'entre nous. Elle nous apprend à renoncer à la piété et aux convoitises de ce monde. Elle nous apprend, au sens, elle est cette force qui nous permet de renoncer, de faire des choix, de vivre. Et donc, une vie où vous accueillez le Saint-Esprit, parce que c'est ça le baptême, eh bien, c'est une vie où nous avons une force nouvelle. C'est une vie où la prière n'est plus des paroles adressées à quelqu'un, mais la prière, c'est une rencontre avec celui qui habite notre cœur. Je vois quoi ? Oui, quelqu'un qui vit avec le Saint-Esprit, peut-être les signes, celui qui vit avec le Saint-Esprit, il est souple. Parce que dans les actes des apôtres, les apôtres sont souples. Ils changent de programme. Les gens qui sont pneumatiques, charismatiques, ils vivent avec le Saint-Esprit, ils sont souples. Ceux qui vivent avec le Saint-Esprit, ils sont humbles, comme le Christ est humble. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte que une vie réussie, c'est une vie où on accueille les dons de Dieu. Et donc celui qui est humble, c'est celui qui reconnaît ses dons de Dieu au pluriel. Plus vous êtes humble, plus vous reconnaissez ce que Dieu vous donne. Et puis celui qui vit avec le Saint-Esprit, comme il est dit dans la deuxième lecture, il préfère Dieu à toute chose. Qu'est-ce que dit saint Paul ? Il nous apprend à renoncer aux convoitises de ce monde. Plus Dieu aura pris sa place en nous, plus nous serons libres par rapport aux convoitises, aux biens de ce monde. Voilà, alors que le Seigneur nous montre à chacun d'entre nous, en fait, comment nous devons nous mourir. On va employer le mot, c'est pas très très grave, hein, c'est pas dramatique de mourir, puisque mourir c'est vivre. Et qu'on ait les certitudes que ce petit don, cette mort, en fait, elle nous entraîne à la vie, et que cette vie, elle est déjà en nous par le Saint-Esprit, et qu'on va vivre pleinement, on va demander ça au Seigneur, encore dans cette messe, qu'on puisse vivre vraiment avec le Saint-Esprit, qui prenne toute sa place. Le Saint, c'est celui qui a une moindre résistance à la grâce du Saint-Esprit. C'est tout. Un Saint, c'est celui qui ne fait pas d'obstacle au Saint-Esprit qui est en lui.